Grain de sel, l'émission de la rédaction. Grain de sel.
Bonjour Hervé et Frédéric, nous sommes dans les studios de RVM en compagnie de Thierry Patinet.
Le dérèglement climatique, ça nous concerne. Il y a une action qui va avoir lieu du 30 novembre au 12 décembre. Donc Thierry Patinet, qui est entre autres président d'Attaquaz et qui a aussi d'autres fonctions, il va nous préciser ça, est invité ce soir.
Alors, bonjour à tous les deux et bonjour aux auditeurs et auditrices. Donc, toujours Thierry, toujours Attaque, toujours d'Attaque, enfin on essaye. Et alors, en plus, je co-organise avec d'autres copains, en particulier des associations de Beauvais en transition et du Carnaval des possibles, dont je fais aussi partie, et donc je peux aussi m'exprimer en ce nom. On essaye d'organiser, non pas une action, mais des actions citoyennes dans toute l'Oise à l'occasion de la COP28, donc la conférence des parties, sur les questions du climat qui a lieu à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Voilà, donc pour la présentation.
Tu t'occupes aussi de la plateforme Action Climat ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est des copains, c'est dans le cadre d'une action Hauts-de-France, mais enfin, ça se fait à l'échelon international, de toute façon. La COP28, ça concerne tout le monde. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui s'agitent dans certains territoires. Là, il y a eu une coordination au niveau des Hauts-de-France, et on la décline au niveau de l'Oise, et puisque ce que l'on cherche, c'est à cultiver notre jardin pour faire qu'il y ait un maximum de personnes qui s'impliquent, même petitement, à leur niveau, pour se faire plaisir. Et ce que l'on tient absolument à dire, c'est que les gens ne mesurent pas l'importance que cela représente de s'engager les uns avec les autres, à la fois pour se connaître, à la fois pour bien vivre ensemble, à la fois pour agir, pour changer la situation, mais surtout l'impact que ça peut avoir. Parce que chacun, à contrario, je fais versus, tout le monde peut se dire « bon ». Et c'est vrai en même temps. Si moi je suis en plus dehors avec les autres ce jour-là, ou j'y suis pas, sincèrement, qu'est-ce que ça va changer ? Et c'est vrai, tout le monde peut se dire ça. Bon, voilà. Vas-y, je vous laisse poser les questions.
Ouais, donc la COP28 a lieu à Dubaï. Est-ce que c'est pas une aberration déjà ?
Alors, on pourrait faire une émission, comme on a un temps contraint, je vais pas développer sur les COP. Les COP, c'est si on se trompe d'objectif. On a une déception énorme et il ne faut pas s'attendre à ce que la COP, celle-là en particulier, résolve tous les problèmes auxquels on est confronté. Il y en a une qui avait donné beaucoup d'espoir, c'était la COP21 à Paris en 2015. Celle, pour les auditeurs qui, je rafraîchis un petit peu, c'est celle qui avait été adoptée, enfin dont le texte avait été adopté à l'unanimité et celui dans lequel il était dit qu'il ne fallait pas dépasser les 1,5 et que tout le monde s'engageait pour le faire. C'était, je fais référence à celle-là. On risque d'être fort déçu. Sauf que les COP, c'est comme l'ONU, c'est un machin, aurait dit De Gaulle, qui est le moment où les gens se parlent, ils sont obligés de se parler. Alors, il y en a qui font des contorsions, il y en a qui font de la com, il y en a qui font semblant, mais c'est un moment où c'est une période sensible, où beaucoup de gens apprennent des choses, se mobilisent, et c'est comme cela qu'il faut le considérer. Alors effectivement, il y avait deux choses dans ta question. Tu avais la COP à Dubaï, donc j'ai répondu sur la COP et sur Dubaï.
C'est surtout ça.
Sur Dubaï.
Sur tous les deux, quoi.
Ouais. Alors Dubaï, un des pays producteurs de pétrole, membre de l'OPEP, et surtout, il y a un président. Pour la COP 2015, c'était le ministre des Affaires étrangères, c'était Laurent Fabius qui présidait. Là, c'est le ministre... Allez, je vous fais une devinette de quoi, mais vous le savez, je suppose.
Non, vas-y, vas-y.
Le ministre du pétrole, voilà, qui préside cela. Alors effectivement, ça peut sembler... Bon, bref. Les enjeux sur cette COP, ils sont très clairs maintenant. C'est pour ça qu'on fait cette action, et ces actions que je vais développer un petit peu. C'est... on est devant une urgence absolue, et les gens... Alors peut-être que je vais faire pleurer des gens et qu'il y en a... Alors ne vous suicidez pas tout de suite, attendez la fin de l'émission, parce que si je viens là, étant retraité, je pourrais faire autre chose, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelque chose à faire, comme aurait dit Pierre Belmar. Donc c'est ça qu'on retient, ça peut toujours être pire et ça peut s'améliorer. Mais ceci étant, il faut être lucide, la situation est très grave. Et il faut absolument laisser dans le sol la plupart des énergies fossiles qui existent actuellement, que ce soit du charbon. Le charbon, c'est le pire. Le pétrole et le gaz. Même si le gaz, c'est un peu moins pire.
Le gaz de schiste.
Le gaz en général. Le gaz en général. Même si c'est du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, c'est un petit peu moins que le pétrole. Et le pétrole, c'est un peu moins que le charbon. Sachant qu'il y a différents types de charbon. Après, ça dépend des centrales thermiques. Il faut rentrer dans le détail technique. Mais bon, voilà. Il faut que ça reste à l'intérieur du sol. Et l'enjeu de cette COP-là, c'est un enjeu qui est lié en définitive à la question du développement et des injustices dans le monde. Pas uniquement au niveau du climat. Il y a beaucoup de gens qui disent actuellement, à juste titre, mais comme ils disent qu'une partie des choses, ça devient partiellement faux. Ouais, c'est la Chine, c'est des pays comme ça qui polluent le plus. Alors les gens, ils emploient le mot polluer à la place de émettre des gaz à effet de serre. Je vais rester sur polluer, c'est pas tout à fait la même chose d'un point de vue scientifique. C'est même pas du tout la même chose, mais en même temps, on se comprend. Donc on va rester sur polluer. Bon. C'est vrai que c'est eux qui polluent le plus actuellement. Sauf que le problème qui est posé, c'est la quantité totale de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle les ppm, particules par million, qui sont dans l'atmosphère et qui provoquent ce réchauffement climatique. On pourrait faire aussi une émission sur l'effet de serre, le gaz à effet de serre. Voilà, c'est quand vous voulez. Hein. Et on s'est formé depuis qu'on intervient tous azimuts sur ces questions-là. Et donc, je termine, c'est cette quantité. Et la quantité qui est dans l'atmosphère, cette quantité-là, le pourcentage le plus important revient à des pays comme les États-Unis, la France, les pays dits développés qui en ont envoyé pendant des années et des années. Et le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas que cette quantité augmente. Et il y a plein de pays en développement, dont certains pays, africains en particulier, qui ont des réserves de pétrole, qui se disent, mais nous, pour nous développer, vous nous demandez de ne pas utiliser l'énergie pas chère qu'on a en dessous les pieds, alors que c'est vous qui avez pollué depuis des années. Et donc, il y a tout le problème de l'aide, des compensations, etc.
C'est la question que j'allais te poser. Non. Est-ce qu'on peut interdire aux pays qui sont en voie de développement de se développer avec leurs énergies? Parce que nous, Européens, disons, on a pollué pendant des années. Le charbon, ça a été une grande source d'énergie pour l'Europe. Au 19e siècle, au 20e siècle. Et maintenant qu'on s'aperçoit que ça pollue, on va dire à des pays comme la Chine ou comme des pays africains, eh ben non, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Donc, c'est un paradoxe quand même.
Alors la réponse est dans la question. C'est-à-dire que non, on ne peut pas empêcher aux pays qui ont un retard de développement, de se développer tout simplement pour le bien-être de leur population. Le bien-être, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'âge auquel on meurt, c'est la vieillesse en bonne santé, etc., etc. Donc empêcher cela, c'est absolument impossible. Mais faut-il que ce développement passe par l'augmentation des crises liées à l'utilisation du pétrole? Non. Et donc, la question, c'est comment développer des technologies nouvelles, les énergies renouvelables, globalement, pour aider ces pays à justement se développer sans utiliser les ressources qu'ils ont sous les pieds. Parce que de toute façon, si on les utilise... Alors, encore une fois, je suis quelqu'un d'optimiste, mais il faudrait peut-être décliner pour faire toucher du doigt aux gens ce que ça veut dire une planète inhabitable d'ici 20-30 ans. C'est pas dans 100 ans à la fin du siècle. Une planète inhabitable, ça veut pas dire que les gens vont tous mourir. La plupart, d'ailleurs, on ne mourra pas. On vivra très, très mal. Et surtout, on sera emmerdé toutes les 5 minutes. Regardez les gens dans le Pas-de-Calais actuellement. On manque d'eau. Et les gens ont les pieds dans l'eau. Et voilà. Et... on peut plus sortir pour aller faire un footing parce que la pollution, parce que la sécheresse, parce que on avait prévu d'aller en vacances, mais on ne peut plus aller en vacances. C'est-à-dire que la vie va devenir invivable. Et en particulier pour les personnes les plus pauvres.
On peut mettre aussi les pieds dans le plat puisque le réchauffement climatique va induire aussi plus d'immigration. Tout ça, c'est lié quand même.
Alors, sur l'immigration, si... oui, il y a ce qu'on appelle...
La COP21, c'était en 1,5 degré, donc on ne va pas y être, on va être à 3-4 degrés, donc on va avoir une partie de l'Afrique qui va être inhabitable. C'est sûr qu'il va y avoir des mutations de population.
Alors, il n'y a pas que l'Afrique qui serait inhabitable, oui. Mais sur...
Entre ceux-là, plus ceux qui vont être inondés ou submergés et tout ça.
La question que tu poses, Hervé, c'est la question des réfugiés climatiques.
Voilà.
Et de toute façon, on n'empêchera jamais les gens... d'essayer d'aller dans un endroit meilleur pour eux et leur famille. Et ils ne vont pas pour piquer les allocations des Français ni leur travail. Faut être clair, faut être un petit peu sérieux. Ou alors, c'est qu'ils ont des agences de tourisme et de voyage qui sont mieux développées que les nôtres. Non, c'est pas ça. Alors, on parle déjà de réfugiés climatiques, mais il faut savoir que les déplacements de population, c'est essentiellement sud-sud. si on veut être avec des chiffres sérieux actuellement. C'est-à-dire ne nous faisons pas peur par rapport à ça. C'est essentiellement à l'intérieur même du pays, par rapport aux zones de submersion. Ouais. C'est un déplacement qui se déplace par rapport aux côtes, par rapport aux endroits où c'est un peu plus sec, où il y a des problèmes alimentaires, etc. Donc c'est essentiellement un déplacement à l'intérieur des pays ou à l'intérieur des pays du Sud. Ceci étant, tu as raison, il y aura une augmentation des déplacements de population et c'est incontournable. Mmh. Et donc, soit c'est des murs, soit c'est des aides, et on revient à ta question sur le développement. Parce que si les gens ils se déplacent, c'est parce que ça devient invivable et ils ne peuvent pas se développer.
En fait, c'est pour montrer que l'augmentation de la pollution, disons, ça n'est pas qu'une affaire de santé. Tout est lié, quoi. Dans notre monde, tout est lié.
Ah, de plus en plus. Et c'est difficile de parler de la complexité dans ces cas-là. Ouais. Je ne sais pas si RVM aura les reins pour inviter Edgar Morin.
Ah, ça serait bien.
La complexité, c'est plutôt lui. Bon, voilà. Mais disons qu'il faut être à la fois dans la nuance. Il faut vraiment approfondir les dossiers. Il faut s'habituer à avoir des débats contradictoires, mais avec le souci non pas de faire du buzz et d'avoir le bon mot, c'est de se rendre compte que soi-même, sur cet aspect, je ne suis pas complètement clair. En gros, la solution, on la trouvera à deux. Ce n'est pas moi qui ai raison et toi qui as tort. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, ceci étant, il y a quand même des gens, il faut le dire. Alors, est-ce que c'est les méchants capitalistes, les dominants, quand même, qui cherchent, même s'ils ne sont pas couillons, enfin, il ne faut pas exagérer quand même, ils ont un niveau d'instruction, ils comprennent le dérèglement climatique, mais ils ont le logiciel qui fait qu'ils ne fonctionnent pas, ils voient à très court terme, et il y aura des gens contre qui il faudra se battre, ça c'est très clair.
La COP 28, la COP 21, 22, 25, 28, c'est bien gentil, mais il y a toujours des gens qui se disent, après moi le déluge, qu'importe, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, je continue à vivre, je fais couler de l'eau, je pollue, enfin je prends ma voiture, mon 4x4, voilà. C'est pas mon problème si après, dans 30 ans, je serai plus là, de toute façon.
Disons qu'il y a... Il faut être dans la nuance et dans la complexité, encore une fois. Mais disons...
Oui, mais bon, pour les questions, il faut y aller, franco, quoi.
Il y a tout ce qui renvoie au climato-scepticisme, c'est-à-dire des gens qui sont dans le déni. Il n'y a pas de réchauffement climatique. L'exemple le plus emblématique, malheureusement, il a été élu président des États-Unis. Oui. C'est Trump, dans ses campagnes, il fait remarquer qu'il fait froid tel jour, donc ne me faites pas marrer avec le réchauffement climatique. Donc, il confond climat et météo, donc c'est un niveau CM2. Donc, maintenant, on peut élire un CM2 présidence de la République, donc on peut prendre l'aspect du côté optimiste, tout le monde peut être président. Bon, je rigole, c'est un connard, excusez-moi pour l'expression, mais voilà, il faudrait s'interroger sur comment ça se fait, parce que ça renvoie à des crises démocratiques. Quand les gens, à un moment donné, c'est un autre dossier, ça, c'est que quand on n'a plus de perspective, on peut être amené à dire et faire n'importe quoi. Et ce qui vient de se passer en Argentine est caractéristique. C'est celui qui se baladait avec une tronçonneuse qui a été élu président de la République. Je ne sais pas si vous avez suivi
justement,
dimanche dernier.
Ouais, justement, est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de politiques qui réfléchissent à long terme ?
Alors, le calendrier... Alors, il y a le politique et la politique. Ouais. La politique, c'est la chose la plus noble qui soit. C'est-à-dire, en définitive, comment on s'organise pour vivre ensemble et logiquement dans l'intérêt de tous. Bon, voilà. Le politique, c'est une sphère, un champ où il y a des gens qui cherchent à avoir des positions dominantes, à imposer leurs idées. Et là, il y a des enjeux qui ne sont pas du tout de même nature. Donc, autrement dit, il ne faut pas, sous prétexte qu'il y a des gens qui ont des comportements détestables, qui ne font pas ce qu'ils disent une fois qu'ils sont élus, par exemple, foutent toute la politique à la poubelle. Parce que si on se désintéresse de la politique, certains ne s'en désintéressent pas. Et de toute façon, il y a des gens qui sont élus, il y a des gens qui sont en position dominante, et c'est nous qui trinquons. Donc, il y a aussi une question démocratique, derrière toutes les questions qui sont posées là. Vu l'heure, j'aimerais qu'on parle des actions concrètes.
Bien sûr, on a le temps d'en parler.
Bon, ça va.
Action Climat, Hauts-de-France. Alors, sur le département de l'Oise, des événements se préparent, temps fort, le 8 et le 10 décembre. Tu nous parles de ça?
Oui, alors donc la période de la COP, c'est du 30 novembre au 12 décembre. Si des gens ont envie de faire des actions un petit peu avant et voir un petit peu après, et il y en aura par exemple déjà le 14 décembre avec la projection d'un ciné-débat sur De l'eau jaillit le feu, Alaska à Beauvais, qu'on fait rentrer dans les actions collectives, puisque les actions, c'est en définitive... Tout le monde peut agir. Le frein le plus important, c'est ce que chacun d'entre nous a dans sa tête. Deux choses. J'ai peur d'être ridicule et de toute façon, ça ne servira à rien. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. L'obstacle principal, il est là. L'obstacle à agir. L'obstacle pour trouver des solutions, ça, c'est autre chose, hein, bien évidemment. Et donc,
comme tu dis agir, ça ne sert à rien. Pour certains, par exemple... Comment faire comprendre aux gens que si en me lavant les dents, je coupe l'eau de mon robinet, ça a de l'intérêt, étant donné que 80% de l'eau utilisée, c'est les agriculteurs qui arrosent leurs champs de maïs l'été. Donc voilà.
Alors, c'est pas tout à fait, je comprends l'idée, c'est pas tout voilà, à fait ces chiffres-là. Les agriculteurs sont quand même pas autant responsables que ça.
Mais
c'est-à-dire que c'est comme tout.
Comment faire comprendre aux gens que c'est quand même important?
Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que déjà, il ne faut pas opposer ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le petit geste individuel. De toute façon, c'est plus intelligent de fermer son robinet quand on s'en sert pas, de fermer la lumière quand on quitte une pièce. Et de toute façon, d'un point de vue économique, pour le budget de la famille, c'est mieux. Voilà. Et donc, si on fait des économies de ce point de vue-là, aussi bien financières que sur la matière première, c'est bien. Donc, oui, faisons-le. Deuxième chose, il y a des actions qu'on appellera collectives locales. C'est de celles-là essentiellement dont on va parler. C'est à l'intérieur d'une association, on agit pour développer les pistes cyclables, pour qu'il y ait une implantation ou pas d'une éolienne sur son territoire. Des choses à portée de main, je dirais, mais qu'on ne peut pas faire tout seul, qui sont au niveau collectif. C'est important de les faire aussi, sur le ramassage des déchets, sur plein de choses, sur l'organisation de covoiturage. Il y a plein de choses qui peuvent améliorer la situation, au sens où chacun fait des économies, et c'est bon pour la planète, vous avez compris l'idée. Mais il ne faut absolument pas l'opposer, c'était la question que tu posais avant, avec la question politique, qui est la question essentielle. C'est-à-dire que si chacun fait ses gestes les plus écologiques qui soient, ça avait été étudié. Alors, c'est des modélisations, mais bon, en gros, on ne résout au mieux que 20% les problèmes auxquels on est confronté. Les vrais problèmes pour les résoudre, ce sont les politiques publiques, c'est les décisions qui sont prises à l'ONU, de notre gouvernement, au niveau de la Commission européenne. Donc, c'est de la politique politique, au vrai sens du terme. J'avais pas terminé tout à l'heure, je reviens sur le déni, sur les climato-sceptiques. Il y a des gens qui sont dans le déni, on y est pour... toute façon, c'est pas nous, type Trump. Deuxième chose, il y a des gens qui disent, oui, effectivement, il y a un dérèglement climatique, on le constate, mais... Il y a toujours eu des périodes glaciaires, interglaciaires, réchauffement, bien sûr. Sauf que maintenant, c'est... Mais alors, faut ne pas savoir lire un document scientifique vulgarisé du GIEC, très concrètement, donc le groupe intergouvernemental des experts pour l'étude sur l'évolution du climat, sur le fait que, quand on regarde les courbes, même s'il y a, on serait dans une période légèrement de réchauffement, donc on sortirait d'une période glaciaire, l'élément essentiel, c'est la vitesse et l'accélération avec lequel ça se fait et avec une corrélation quasi à 100% entre la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le réchauffement qu'on constate. Et donc, c'est bien lié, non pas à l'homme, mais à des activités humaines. Parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur les inégalités, enfin, il y avait la question de la pauvreté que tu abordais avec les réfugiés climatiques. C'est qu'il y a des études qui viennent d'être faites, je crois que c'est Oxfam, mais il n'y a pas que, hein. C'est les 1% les plus riches polluent, je reprends le terme polluer, mais donc émettent des gaz à effet de serre, aussi importants que plus de 50% de l'humanité la plus pauvre. C'est-à-dire que quand on dit par exemple il faut manger moins de viande, on est tout à fait solidaire de plein de gens en précarité qui ont un pouvoir d'achat très faible et qui, eux, disent « moi, j'aimerais bien manger de temps en temps une fois de la viande avec mes enfants ». Donc voilà, il ne faut pas se tromper de combat. Hein. Voilà. Et puis alors après, il y a ceux qui disent « il y a du réchauffement climatique » ou plus exactement, c'était la catégorie, c'était l'image que tu amenais, c'est « après moi le déluge », c'est l'expression que tu as employée. Il y a effectivement, on voit ça dans certains films, dans les cercles nazis, en 1945, en avril 1945, il y a eu quelques films dessus, en Allemagne. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Et donc, là, eux, ils savaient qu'ils n'en avaient plus pour très longtemps. Et donc, ils avaient un comportement où ils étaient encore pires. C'était de la débauche, c'était n'importe quoi. Mais parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient plus que quelques mois à vivre. Je caricature un peu. On n'est pas dans cette situation. Même si j'ai un discours très alarmiste, on est dans une situation où on peut, avec des crises, avec des difficultés qu'on va avoir, avoir comme perspective d'avoir un avenir meilleur pour tous.
On peut encore redresser la barre.
On peut redresser. Enfin, c'est-à-dire que va y avoir, le monde va devenir de plus en plus inhabitable. Mais il va devenir de plus en plus inhabitable. Mais si on change nos modes de production et de consommation, en termes de déplacement, de rapport au travail, de prendre plus de temps pour faire des jeux de société, je dis des bêtises, peut-être, ou d'écouter de la musique, ou de se balader pour aller ramasser des champignons, ou des activités collectives qui font du bien, on peut retrouver du plaisir de vivre collectivement. Ce ne sera pas le même. Les gens qui sont accros aux jeux vidéo, par exemple, ils vont sentir du manque. Mais bon.
Mais il y a une partie, je vais peut-être dire une bêtise, hein. Il y a une partie des gens, par exemple, aux États-Unis, qui se disent, sur la Terre, c'est peut-être déjà foutu. C'est peut-être mieux d'aller voir si on ne pourra pas s'installer sur Mars dans 50 ans.
Il y avait, c'était quand j'étais jeune, dans les années 70, il y avait un film de science-fiction, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace,
oui.
De Stanley Kubrick.
Kubrick, bien sûr.
Bon, voilà. Donc, on peut toujours fantasmer.
Non, mais il y en a certains.
Mais
c'est ça.
Alors, toute cette clique-là, j'appelle ça une clique, de gens complètement déraisonnables, mais je vais mettre de la nuance quand même. C'est ceux qui sont porteurs de ce qu'on appelle la géo-ingénierie. C'est-à-dire, on résout le problème, on a trop de déchets sur Terre, on les envoie dans l'espace. Il pleut pas, on va créer des nuages artificiels. Il y a des recherches qui sont faites actuellement.
Voilà, ouais.
Il y a de la technologie qui va avec, il y a des financements qui vont avec. C'est, enfin, tous les gens qui connaissent un petit peu ce...
C'est la fuite en avant.
C'est la fuite en avant, mais qui, de toute façon, ne résoudra absolument pas les questions auxquelles on est confronté. Et puis, si on pense que d'autres planètes sont habitables et que c'est l'avenir désirable, voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire dans mon discours qu'il ne faut pas de l'innovation et une recherche technologique qui améliore la productivité de telle ou telle chose, qui font qu'on aura moins besoin de changer de vélo, de voiture, donc ça dure plus longtemps, donc on fait des économies de matière. Donc on fait des économies d'eau, donc on fait des économies d'énergie. Donc le développement des techniques, c'est une bonne chose.
On en revient aux actions.
Voilà. Alors donc sur les actions, vraiment, c'est donc là, alors je ne vais pas du tout, je ne suis pas l'abbé Pierre, hein, j'ai pas cette dimension, mais je lance un appel. Voilà.
Ouais.
Ce sera l'appel de Crépy mercredi 22 novembre.
Voilà. À 17h54.
Voilà, avec Hervé et puis
Fred.
Et Fred. Voilà, c'est faire que chacun ose, dans sa commune, faire une petite action. Et c'est la petite action, c'est ce qu'on appelle une chaîne humaine. Donc le défi, c'est qu'il y ait une chaîne humaine dans chaque commune. On appelle ça une chaîne humaine discontinue, puisque les gens ne vont pas se donner la main d'une commune à l'autre. Ils ne sont pas forcés de le faire le même jour, à la même heure. Qu'est-ce qui va faire du lien entre tout ça? C'est que déjà, les gens sachent qu'ils appartiennent à un mouvement collectif, qui a du sens, qui a de la valeur. La deuxième chose, que ce soit su. Pour que ce soit su, il y a un travail avec la presse. D'où merci de m'accueillir ce soir pour faire ce relais. J'espère que... Parce que sur la région de Crépy, pour l'instant, c'est désert. Ouais. Il y a personne qui s'est manifesté, même s'il y a des militants de plein d'associations.
Parce que là, dans chaque commune, il faut des relais quand même.
Voilà. Et donc, l'idée, c'est une personne qui démarre. Alors, il y a déjà au moins une cinquantaine de communes dans l'Oise où il y a des choses qui se font. Il y en a qui sont déjà bien avancées. Et il y a des communes comme Beauvais où il y a au moins une dizaine d'actions sur toute la semaine qui tournent autour de rassemblements liés à des activités de transition sur du recyclage, sur les logiciels libres, sur le cinéma, enfin, peu importe. Voilà.
Est-ce que vous intégrez les scolaires?
Alors,
aux actions.
Alors c'est une bonne question. Là, je ne suis pas mandaté pour le faire, même si maintenant, avec la casquette du Carnaval des Possibles, on a l'agrément Éducation nationale et on devrait avoir aussi l'agrément Éducation populaire, ce qui nous permet d'intervenir dans les établissements scolaires. Alors, sur le temps scolaire, c'est les élèves, les parents... et les enseignants, et puis l'institution, et en tant qu'ancien enseignant, je suis assez clair là-dessus. Par contre, en tant que citoyen, je regrette qu'il n'y ait pas, par exemple, le vendredi 1er ou le vendredi 8, des grèves des élèves, en particulier des lycéens, comme il y avait avec Greta Thunberg, la grève tous les vendredis pour le climat. Alors, c'est pas tant pour faire grève, même si, quand on fait, c'est toujours un peu le bazar, on contrôle moins, quand on est à la direction des établissements, on n'aime pas tellement ces moments-là. Bon, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Mais l'idée, c'est pas tellement de faire... C'est une grève sur le tas. C'est-à-dire que les élèves... j'étais enseignant, je le suis plus. Je rêve qu'à un moment donné, une classe majoritairement dit « Monsieur, aujourd'hui, on travaille pas. On fait une grève sur le tas. » Mais on est dans la COP28. J'aimerais bien qu'au niveau de l'établissement, on discute sérieusement de toutes ces questions-là, de toutes les questions qu'on se pose.
Il y a plein de gens qui... conscience collective pour les étudiants.
Alors là, tu parles des étudiants, moi je parlais des élèves.
Des élèves, tu parles du lycée, donc alors, c'est des lycéens.
C'est essentiellement lycéens, éventuellement les grands collégiens de 3e, et les étudiants bien évidemment. Dans tous les établissements scolaires, depuis la circulaire d'août 2019, donc je connais bien, signée Jean-Michel Blanquer, il y a depuis l'élection d'éco-délégués. Donc logiquement, il doit y avoir une sensibilisation. Cette sensibilisation, elle passe par des formes qui sont multiples et variées. Parfois, on apprend quelque chose, on fait un devoir, on assiste à quelque chose, et parfois, on se manifeste et on manifeste. Donc, par rapport aux jeunes, s'il pouvait y avoir un mouvement pour que les jeunes, ce jour-là, mais avec leurs enseignants, se posent ces questions pour, à la fin de la journée, en définitive, ben, on sait, avec des questions toutes bêtes, il paraît qu'on manque d'eau. On manque d'eau maintenant. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe avec les inondations actuellement, mais globalement, on manque d'eau. Or, quand les scientifiques disent, depuis la création de la Terre et de l'atmosphère, donc de la vie sur Terre, il n'y a pas une goutte d'eau qui a disparu. C'est toujours la même quantité d'eau. Donc, le cycle de l'eau est complètement détruit, et pourtant, c'est la même quantité d'eau. Comment ça se fait? J'ai besoin d'explications, je ne comprends pas. Et donc, sur tout un tas de choses, il paraît que la Terre se réchauffe, mais là, il fait froid en ce moment. Voilà, sur des petites choses au niveau scolaire, pour que ça devienne de la citoyenneté, et puis ça pourrait très bien devenir au niveau, pas uniquement de la biologie ou de la science de la vie et de la Terre, donc ces disciplines sciences naturelles, quoi, en quelque sorte, mais ça peut devenir quelque chose de transversal, et donc je souhaiterais que les jeunes soient vraiment un acteur majeur dans ce moment-là. Après, autre chose, il y a des actions le week-end, le soir, etc. S'ils viennent, ils sont majeurs ou grands, ils peuvent venir, et bien évidemment, ils sont les bienvenus, ou ils peuvent venir avec leurs parents, ou les faire venir, etc. Bon, voilà.
Pour le moment, vous n'avez pas de retour sur des actions qui seraient menées dans les écoles,
alors, non.
Ou dans les collèges ou lycées.
Alors, il y a des organisations syndicales qui sont parties prenantes avec nous pour sensibiliser les syndiqués, donc les collègues plutôt, les personnels, Il y a des enseignants qui n'ont pas attendu pour faire de l'information et de la sensibilisation tout au long de l'année. Est-ce qu'il y aura des actions dans ce sens-là, dans cette période ? Sincèrement, je ne peux pas le dire. Si on pouvait les recenser et les mettre en valeur, parce qu'après, ça a un effet d'entraînement. Ça a un effet d'entraînement. Et c'est vraiment le sens de l'appel là, que je fais ce soir. Pour les gens, c'est simple. Une fois qu'on a dit que c'était à telle heure, tel jour, on prévient simplement le maire. Et je vais parler des maires, puisque là, on a eu un contact avec les deux associations des maires de l'Oise. Très important, et c'est nouveau. Et leur réaction a été aussi très importante. Donc je voudrais en dire un mot et les remercier. Les personnes disent à leur maire, bah, écoutez, on fait telle chose à tel endroit, telle heure. Bon, voilà. Et ce qu'on demande, et avec l'accord donc, des associations de maires, c'est que les maires répondent favorablement, bon, en termes de police municipale, pour les questions de sécurité, bien évidemment, mais également faire de la pub sur le Facebook de la mairie, sur les panneaux lumineux, sur l'affichage, prête une salle s'il y a une demande, s'il y a beaucoup de monde, de façon à ce que les gens, une fois qu'ils ont fait leur chaîne humaine, ça dure un quart d'heure, ils peuvent chanter des chansons, dire des slogans, puis s'il y a des gens un peu plus compétents, donner quelques éléments d'information sur la COP28. Mais l'élément essentiel, c'est d'avoir pris une photo, j'insiste dessus, et donc sur le document qu'on fait circuler, qui s'appelle le dérèglement climatique, ça nous concerne. Un petit flyer, celui que tu as sous les yeux, là, Hervé. Y a un site pour envoyer les photos, puisqu'il y a un travail avec la presse, de façon à ce qu'il y ait une sorte de pressbook après, sur. Il y a eu dans X, dans, on espère, une centaine au moins de communes, des actions au moment de la COP28 dans l'Oise. Ça a rassemblé tant de milliers de personnes. Et puis, y a un aspect festif. Comme disait Pablo Servigne quand il est venu dans l'Oise, il faut célébrer ces moments-là. Le fait, et on a déjà fait des chaînes humaines sur des marchés. Parfois, il faut 5 minutes, comme des gamins entre garçons et filles dans une classe, pour qu'ils se donnent la main. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de rentrer en relation avec les autres pour une cause qui nous dépasse. On accepte, on ose, et ça ne peut être que très sympa à faire. Voilà. Et puis, on a fait la chaîne humaine, et on a construit un petit panneau quand même, mais pour tout le monde, hein. Il suffit qu'il y en ait un qui le fasse, ou alors on le fait ensemble. C'est un bout de carton sur lequel on met un des 3 slogans suivants, ou les 3. C'est très simple. Le premier, qui est le plus neutre possible, mais qui montre un engagement. La COP28, ça nous concerne. Le fait de dire ça nous concerne, c'est on réinvestit l'espace public. Donc on fait de la politique. Le deuxième, un peu plus révolutionnaire, c'est « Changeons le système et pas le climat », qui est un slogan. Et le troisième, c'est réaffirmer « Stop aux énergies fossiles » par rapport à ce dont on a discuté tout à l'heure. Voilà. Donc c'est relativement simple. Donc je tiens à remercier des associations de Beauvais en transition qui ont été très actives dans le lancement de ce processus et dans l'accompagnement. Donc l'association ATTAC dont je fais partie. Et puis le Carnaval des possibles de l'Oise. Et pour la coordination, pour des gens qui n'arriveraient pas à mettre en ligne, parce que ça peut, il y a un petit aspect informatique pour faire savoir, envoyer les photos, vous pouvez l'envoyer sur le site sur le mail d'ATTAC que je répète. Donc c'est oise@attaque.org. Je vais le répéter une deuxième fois si vous prenez un stylo. Voilà, oise@attaque.org. Ça vous permet, pour ceux qui ont entendu l'émission mais qui ne savent pas trop où... Bon, voilà. Ils peuvent toujours se renseigner auprès de RVM, on se connaît. Mais sinon, vous pouvez vous renseigner auprès d'Attaque et on sera là simplement pour répondre à vos questions, pour vous aider à mettre en œuvre.
L'orthographe d'Attaque, s'il vous plaît.
Attaque, ATTAC. Voilà. Association pour la taxation des transactions. Je parle, et l'action citoyenne. L'action citoyenne. Voilà.
Oui, c'était la question que j'allais poser. Quelqu'un qui écoute l'émission, comment il peut rejoindre
sur l'action climat, deux choses simplement, on ne pourra pas développer. Je laisserai, donc je vous invite à venir au 26 Place des Rameaux, donc à RVM.
Non, Place Jean-Philippe Rameau.
Place Jean-Philippe Rameau et non pas Place des Rameaux, oui. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Des petits documents. Ouais. Que je vais mentionner tout simplement pour montrer tout ce qui est en jeu. Donc il y a le fameux document, le flyer, le dérèglement climatique. On l'a fait sous forme de petite affichette qui permet d'être affichée. C'est le premier affichette, vous me direz-vous. Où dedans, il y a toutes les procédures pour comprendre ce, où envoyer les photos, comment s'inscrire, etc., etc. Donc, je me permets, je vous les laisse. Il y a un deuxième, parce que c'est lié à TAC et le Carnaval des Possibles, a fait, et c'est dommage, je n'ai pas encore fait à Crépy, donc je sais qu'il y a un cinéma L'Étoile, donc c'est un, c'est un appel que je fais, ça peut être fait. Ça marche de feu de Dieu, c'est le cas de le dire. La projection d'un film, De l'eau jaillit le feu, donc je laisserai des flyers ici, c'est ce truc-là, d'accord. Puisque la question de l'eau est bien évidemment liée à tout un tas d'autres problématiques, mais aussi avec le climat. Et donc, c'est une manière... Voilà. Et puis, deux autres choses sur la question de la COP28, c'est qu'en même temps, il y a un appel international à des journées contre le béton, et en particulier l'entreprise Lafarge. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le béton, du point de vue industriel, c'est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, en sachant qu'encore une fois, que c'est comme la voiture, comme... Les téléphones portables, comme plein d'autres choses, comme l'intelligence artificielle, ce sont des inventions géniales. Ne crachons pas dessus. On a besoin du béton. Mais réfléchissons à qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser le béton dans les conditions actuelles, etc. Voilà. Et puis, dernière chose, c'est... si vous écoutez la radio, vous devez en entendre parler tout le temps, c'est le Black Friday. Et donc, sur le Black Friday, la surconsommation compulsive, c'est aussi une question dramatique, puisqu'il va falloir consommer moins. Comme la viande. Ceux qui consomment rien, c'est pas à eux qu'on s'adresse, c'est aux autres. Et toujours sans culpabiliser les gens. Parce que s'il y a des gens qui attendent le Black Friday pour acheter quelque chose dont ils ont envie depuis 3 mois pour faire un cadeau à Noël, eh ben je ne dis pas que ce sont des consommateurs compulsifs, je dis que ce sont des consommateurs intelligents. Donc ne nous trompons pas de combat, d'accord ?
On va rappeler le site sur lequel les gens peuvent aller s'ils veulent faire une action entre le 30 novembre et le 12 décembre.
Alors, c'est trop long. Par contre, vous pouvez demander un renseignement à ATTAC, et donc en envoyant tout simplement un mail à oise@attac.org. ATTAC avec 2TAC. Comme ça, ça vous permet de... On vous envoie les documents, et ça vous permet d'être autonome et de participer à cette grande fête. Vous pourrez dire « j'y étais ». Voilà.
Le dérèglement climatique, ça nous concerne.
Merci Thierry.
Merci.
Merci Hervé. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Grain de sel, une émission de la rédaction. Grain de sel.